Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Son nom est connu de tous, Charcot. Mais dans la famille, ce n'est pas du père, le célèbre neuropsychiatre dont je vais vous parler, mais bien de son fils, médecin lui aussi, et surtout grand explorateur des régions polaires. Je vous raconte maintenant un navigateur et un scientifique exceptionnel qui n'a jamais eu peur de briser la glace, le Polar Gentleman, Jean-Baptiste Charcot. Nous sommes le 1er février 1904. Voilà 5 jours que le trois-mâts goélette, le Français, a laissé derrière lui les hautes falaises de l'archipel de la Terre de Feu à l'extrémité sud du continent sud-américain. 5 jours qu'il a levé l'ancre et mis le cap plein sud direction les régions désertes, stériles, glaciales de l'Antarctique. Les mers réputées si dangereuses qui séparent le cap Horn des Shetland du Sud, au nord-ouest de la péninsule antarctique, ne l'ont pas épargné depuis le départ. Et l'équipage du bateau, bien qu'aguerri, se remet à peine du fâcheux mal de mer que la violente houle leur a infligé. Le capitaine, lui, semble y avoir réchappé, trop préoccupé peut-être par le poids des responsabilités qui lui incombent désormais, alors qu'ils ont quitté les côtes habitées de ce monde et les routes maritimes fréquentées. Et s'il échouait ? Et si les 19 hommes embarqués avec lui ne revenaient pas en vie à leur famille ? Et si l'illustre nom de son père, l'éminent neuropsychiatre français Jean-Martin Charcot, était sali par un échec lamentable ? Et s'il ne parvenait pas à justifier la confiance de ceux qui l'ont soutenu ? Le gouvernement français n'a pas été très aidant. Plus préoccupé par ses lucratifs territoires coloniaux que par ce désert stérile de l'hémisphère sud. Mais la communauté scientifique, la presse et le public, via une souscription lancée dans le journal Le Matin, se sont montrés très généreux. Il s'agit de ne pas les décevoir, de ne pas donner raison à ceux qui ont qualifié cette expédition scientifique de complètement folle. Très tôt, en ce premier matin de février 1904, vers 4 heures du matin, alors qu'il prend son car sur le pont, Jean-Baptiste Charcot, 36 ans, médecin et navigateur passionné, scrute l'horizon, l'air soucieux et l'esprit tout à ses inquiétudes, quand soudain, des bruits de clapotis et de braiements étranges le ramènent à la réalité. Charcot se penche au-dessus du bastingage et aperçoit une ribambelle de pingouins qui barbote aux alentours du bateau. Enfin, des manchots plutôt. Il scrute alors l'horizon et aperçoit bientôt dans la brume une haute crête de sommet couvert de neige. L'estime veut qu'il se trouve aux alentours de l'île Smith, dans l'archipel des Shetland du Sud. Les voilà aux portes de la péninsule antarctique. Enfin, 5 mois après le départ du Français du Havre, en août de l'année précédente. Aussitôt, l'équipage est alerté. Sur le pont, tous regardent, fascinés, un peu effrayés, ces hautes côtes nacrées, inabordables, sinistres aussi, car elles présagent des dangers à venir. Bientôt, une silhouette fantomatique attire tous les regards. Une masse inquiétante et gigantesque affleurant à 30 ou 40 mètres au-dessus de l'eau. Un cube de glace à la teinte blanc-bleuté, aux angles bien droits comme taillés à l'équerre. Le premier iceberg. Durant les 13 mois qu'ils vont passer aux abords du 6e continent, les 20 membres de l'équipage en verront d'autres, des centaines, des milliers d'autres, balisant le chemin comme autant de sentinelles étranges et menaçantes, tandis que leur navire se fraye un chemin à travers une eau de plus en plus encombrée de morceaux de banquise. Des fragments que la coque du Français, spécialement renforcée d'une armature en bronze, brise dans un vacarme assourdissant. 13 mois dans les glaces, donc, dont 9 les plus froids, passés en hivernage, prisonniers volontaires des glaces, amarrés dans une baie abritée de l'inhospitalière, mais fascinante, île Vandelle à l'ouest du continent. Une immobilisation qui s'avérera fructueuse, puisque Jean-Baptiste Charcot et les 5 autres officiers partis avec lui mettent à profit ces longues semaines pour récolter une moisson de données précieuses sur cette île escarpée, habitée seulement de pingouins, de cormorans et de phoques, des mesures relevant de la géographie, de l'hydrographie, de la météorologie, du magnétisme terrestre, de la zoologie, de la botanique, de la bactériologie, de la biologie, de la géologie et de la glaciologie. Des observations récoltées dans des conditions météorologiques effroyables, par moins 30 degrés et sous des vents glaciaux atteignant parfois plus de 200 km/h. Une expédition en Antarctique n'est pas une sinécure. Charcot le savait avant de partir. Il savait aussi que nulle autre région du globe n'est plus favorable à l'étude des phénomènes physiques de notre planète. Et c'est pour cette raison qu'il s'est embattu pour monter cette expédition. Oh, ce n'est pas la France qui l'y a poussé, elle qui se désintéresse du continent depuis plus de 60 ans, depuis l'expédition de Jules Dumont-d'Urville à bord de l'Astrolabe. Non, l'initiative vient de lui et elle s'inspire de l'exemple des récentes expéditions étrangères menées en Antarctique, notamment anglaises et suédoises. Car Charcot a une double casquette, c'est un médecin et donc un scientifique, chercheur et esprit curieux, mais c'est aussi et surtout un navigateur aguerri, passionné depuis toujours par la mer et les bateaux. Également grand sportif, notamment champion de rugby en 1896 et double médaillé d'argent en voile aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Il aime repousser ses limites et se lancer de nouveaux défis. Ainsi, dès l'âge de 25 ans et grâce à la fortune que lui a laissée son père, il achète son premier bateau qu'il baptise le « Pourquoi pas » et part à son bord explorer les îles Féroé, puis l'île Jan Mayen au nord de l'Islande et jusqu'au-dessus du cercle polaire. Sa vocation d'explorateur des pôles est née. Une passion qui le pousse en 1903 à commander à la Société des chantiers navals de Saint-Malo un navire spécialement conçu pour les territoires polaires, la fameuse goélette Le Français. Une goélette solide, mais peut-être pas assez face aux glaces de l'Antarctique. Charcot et son équipage, libérés des glaces de l'île Vandelle, ont remis le cap au sud en novembre 1904. Mais peu de temps après leur départ, le navire heurte violemment une roche invisible sous 2 mètres d'eau. Le bateau se cabre, presque à la verticale. « Arrière toute !» signale Charcot la machine. Mais c'est trop tard. Le bateau recule et retombe avec un sourd gémissement. L'eau entre par l'avant. La situation est grave, très grave. Impossible de calfater. Mais en pompant quasi continuellement, l'équipage parvient à garder le bateau à flot. Mais il faut rebrousser chemin et tout de suite mettre le cap sur l'Amérique du Sud. Le Français parviendra-t-il à supporter la traversée? Oui, un peu par miracle d'ailleurs. Et un mois et demi plus tard, la goélette arrive à Buenos Aires où un accueil triomphal l'attend. Et alors qu'en France, des rumeurs pessimistes commencent à circuler sur le sort de l'expédition, Charcot crée la surprise et rentre finalement au pays les malles remplies de trésors scientifiques. La cartographie de plus d'un millier de kilomètres de côtes inconnues, des dizaines de caisses d'échantillons, de notes et de mesures diverses. Auréolé de gloire, il trouve sans mal les fonds nécessaires pour repartir. Sa seconde expédition, 4 ans plus tard, à bord du Pourquoi pas 4, s'avérera plus fructueuse encore, le menant jusqu'à la Terre Alexandre Ier et jusqu'à une île plus au sud encore qui portera dorénavant le nom de Charcot. De retour en Europe en 1910, ces campagnes polaires sont un temps mises sur pause du fait de la Première Guerre mondiale. Des années durant lesquelles Jean-Baptiste Charcot s'illustre notamment en servant l'administration britannique à bord d'un navire chasseur de sous-marins. Mais un temps seulement, car dès 1918, Charcot repart pour de multiples expéditions scientifiques menant durant 30 ans campagne sur campagne dans les mers arctiques cette fois. Des campagnes souvent dangereuses qui finiront par lui coûter la vie à l'aube de ses 70 ans. Pris dans une tempête au retour d'une expédition au Groenland en septembre 1936, le Pourquoi pas 4 s'abîme sur des récifs à quelques milles nautiques de Reykjavik en Islande, tuant tout le monde à bord, sauf un maître timonier. La mort de l'explorateur ne passe pas inaperçue et la France offre à sa dépouille retrouvée en mer des funérailles nationales.
Europe 1, historiquement vôtre.